Tony Haber, bonjour.
Bonjour, bonjour Blaise et bonjour chers auditeurs.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, Daniel, nous avons vécu une semaine assez mouvementée, hein, notamment du côté des États-Unis. Donald Trump a pris beaucoup de décisions, a également fait quelques actions en termes de politique mondiale. Il y a évidemment la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro. Il y a cette affaire autour du pétrolier russe. Il y a les menaces contre les régimes islamiques en Iran. Comment est-ce que vous analysez, vous, cette première année de janvier, cette première semaine de janvier, pardon, 2022 du côté de Donald Trump?
Oui, c'est une bonne question. Je rappelle aussi les revendications tout à fait étonnantes sur le Groenland qui semblent prendre corps, hein, donc beaucoup d'activisme, oui. Si vous voulez, c'est bientôt un an de mandat Trump, hein, 20 janvier 2025, et on peut déjà commencer à faire un bilan. On peut dire que 2025 a été une année très active, mais consacrée quand même à ce qu'on peut appeler la recherche de cessez-le-feu. C'est pas recherche de la paix, mais au moins de cessation des combats. Un gros échec, c'est celui de face à Poutine, mais ça, c'est pas la faute de Trump. Trump, je crois, a beaucoup essayé, a beaucoup concédé. Certains lui reprochent même d'avoir trop concédé, mais il voulait aller jusqu'au bout de la séduction. Essayer d'entraîner Poutine sur une autre voie que celle de l'empire tsariste et de l'Union soviétique, de le faire revenir au sein de la communauté au fond occidentale, en pensant que la Russie pourrait retrouver ses tentations occidentales. Il s'est heurté à un Poutine qui est à la fois inflexible, mais surtout qui est le type même du russe panslave. Qui a une vision non européenne de la Russie, une vision globale. La Russie, c'est ni l'Europe ni l'Asie, c'est la Russie, avec donc une quasi impossibilité de le convaincre. Une Russie assise sur ce panslavisme, qui lui-même assise sur les valeurs de l'Église orthodoxe. Voyez, donc on est loin des possibilités de trouver un accord. Par contre, un gros succès pour Gaza. Il faut le rappeler parce que tout de même, la libération de tous les 20 otages vivants. Je rappelle que les 20 otages vivants, c'était ceux qui avaient été mis sur une liste déjà en janvier 2025. C'est-à-dire que pendant toute l'année 2025, on craignait pour leur vie. Ils ont été épargnés, pour des raisons que peut-être un jour on connaîtra. En tout cas, ils ont été tous libérés. Il manque encore le corps d'un soldat, mais donc un grand succès pour Trump à Gaza. Et puis, il a fait une liste de huit cessez-le-feu qui ont eu lieu dans le monde, entre l'Inde et le Pakistan, la Thaïlande et le Cambodge, etc. Disons en Afrique et en Asie, où là, il a participé à des cessez-le-feu. Donc, ceci tranche avec ce début d'année que vous avez très bien décrit, qui lui semble plus offensif. Alors c'est pas la guerre, hein. Ce sont des opérations militaires très limitées, des opérations de police en fait, hein, l'enlèvement de Maduro, et puis des menaces verbales. Hein. On n'est pas du tout pas la guerre. Et donc le bilan de tout ça, c'est un peu le slogan qu'on entend de la bouche de Trump ou d'autres, c'est la paix par la force. Et voilà son application. Alors, ce qui est clair donc, c'est que Trump n'est pas du tout isolationniste, comme on pouvait le craindre, parce que c'était la grande crainte, en particulier en Occident, en Europe, qui laisse tomber un peu toutes les implications américaines dans le monde, qu'ils mettent fin à ce rôle de gendarme du monde que les Américains ont pris l'habitude de faire. Donc, Trump est au contraire hyperactif, interventionniste. Mais ce qui est clair aussi, et ça c'est contraire à tout ce qu'on a toujours dit sur Trump 1 et qu'on a recommencé à dire sur Trump 2, c'est à savoir qu'il est imprévisible ou incohérent. Au contraire, il est extrêmement cohérent. Tout ce qu'il a fait en 2025 était cohérent, tout ce qu'on entend début 26, c'est cohérent. Et si on veut être convaincu de la cohérence, il faut aller chercher sur Internet un document qui est sorti il y a quelques semaines, qui est sorti de la présidence de la République. C'est Trump qui présente ce document, qui s'appelle la stratégie de sécurité nationale, c'est-à-dire la politique extérieure américaine. 33 pages, probablement déjà traduit dans toutes les langues, assez facile à lire, dans un style qu'on pourrait appeler de Trumpien. C'est-à-dire très décontracté, assez clair en fait. Il dit des choses typiquement, comme il le dit d'habitude, comme il le parle, ceux qui ont écrit ce document ont dû s'inspirer du style de Trump. Bref, un document qui dit, en gros, voilà ce qu'on a fait, et voilà pourquoi on l'a fait, et voilà ce qu'on va faire, et qui est donc très crédible.
Oui, justement, Daniel, vous l'avez analysé ce document, que contient-il?
Alors, beaucoup de gens l'ont lu. Faire une analyse exhaustive prendrait des heures, hein, mais on en reparlera au fur et à mesure. Mais on peut dire au moins une chose, c'est que Trump dit en gros, les Américains peuvent pas abandonner le monde à tous ces contestataires, prédateurs, etc. Il faut que les Américains soient là, mais ils peuvent pas être partout à la fois. Il faut choisir, il faut donner les priorités. Donc il annonce des priorités. Les priorités, au fond, elles sont étonnantes, puisque la première priorité, c'est pas du tout celle dont on a toujours parlé. On parlait souvent de la Chine comme étant le principal priorité. Pas du tout. C'est l'Amérique latine. C'est le renouvellement de ce qu'on appelle la doctrine Monroe, 1826, hein, 50 ans après la naissance des États-Unis, le cinquième président, Monroe, dit pas touche à tout ce qui est le continent américain, du nord canadien jusqu'à la Terre de Feu. Tout ça, c'est les Amériques, et c'est les Américains nord et sud qui doivent s'en occuper, donc on ne veut pas d'intervention. Et il va même jusqu'à renouveler cette doctrine en l'étendant et en disant on ne veut pas qu'une puissance extérieure, il veut dire la Chine, hein, prennent trop de positions économiques par des prêts, par des contrôles pétroliers, etc., qui seraient une menace pour les États-Unis. Et la deuxième priorité, bon, c'est l'Asie, c'est vrai, et au fond, l'objectif, c'est clair, c'est de ne pas laisser la Chine dominer toute la région, parce que cette région, c'est une région où les Américains ont beaucoup investi. C'est deux grands morceaux, un qui est le nord-est, là où il y a les deux principaux alliés des Américains, le Japon et la Corée du Sud, qui sont protégés par le parapluie nucléaire américain face à la Chine. Et puis tout ce reste qu'on appelle l'Asie du Sud-Est, des grands pays de plus de 100 millions d'habitants, les Philippines, l'Indonésie, la Thaïlande, et puis aussi des pays comme le Vietnam et bien d'autres. Et Trump, d'ailleurs, il est allé il n'y a pas longtemps pour dire on est là. Vous pouvez faire du commerce avec la Chine, mais c'est nous qui sommes vos protecteurs. La troisième priorité du document, c'est l'Europe. Et là, on est clair, hein. Autant il houspille l'Europe en leur disant vous faites n'importe quoi, réveillez-vous, etc. En partie, il a quand même beaucoup raison. Ça, c'est Vance qui s'occupe de ça. Mais il dit je n'abandonne pas l'Europe. Je ne demande pas l'OTAN parce que c'est vital pour les Américains. Donc là, on est quand même relativement rassuré. Et le quatrième priorité, c'est le Moyen-Orient. Moyen-Orient, où là, les Américains ont beaucoup d'amis, beaucoup d'alliés, et les Américains tentent de les réunir tous pour faire face à un ennemi commun qui est l'Iran. Et un deuxième ennemi qu'il appelle le terrorisme. Alors, ce qui est très intéressant dans ce document, c'est à aucun moment, il parle d'islamisme. L'islamisme étant le régime, le totalitarisme du 21e siècle, il n'en parle pas, comme si ce n'était pas vraiment encore intégré à la pensée américaine. Il ne voit dans l'islamisme que la partie émergée, la partie terroriste. Il ne voit pas tout le travail souterrain que font, par exemple, les frères musulmans, de façon à la fois pacifique, par l'entrisme et l'intégration à toutes les institutions du monde entier, y compris en Occident, qui fait que, par exemple, on a un maire aujourd'hui à New York qui est proche des frères musulmans. C'est quand même, mais ça ne semble pas gêner, ça ne semble pas gêner les Américains pour l'instant. Je pense que cette prise de conscience viendra.
Daniel, pour conclure, il nous reste une petite minute pour terminer. Et Israël dans tout ça?
Écoutez, Israël, quand on regarde bien tout ce qu'écrit le document, c'est l'allié idéal des Américains. Il n'y a pas dans le monde un allié plus intéressant pour les Américains que Israël. Pourquoi? Ben d'abord parce que il se prend en main, il se prend en charge, il dépense beaucoup d'argent pour sa défense, c'est exactement ce que Trump demande aux Européens de faire. Deuxièmement, il ne demande pas aux Américains d'intervenir avec des troupes. Ce sont les soldats israéliens qui vont au front, qui meurent. Et troisièmement, tout ce que les Américains fournissent à Israël en termes de technologie, d'armement moderne, etc., les Israéliens le rendent et peut-être même au-delà de ce qu'ils reçoivent. C'est-à-dire que la contribution de la technologie israélienne à l'armement américain, l'utilisation par Israël d'armes américaines comme les avions F-35, qu'ils améliorent et dont les performances grâce aux pilotes israéliens sont telles que ça fait une promotion, une publicité extraordinaire pour l'F-35, tout le monde le veut maintenant. Et au fond, Israël est l'agent commercial idéal pour Israël, ce qui bien que au total, on peut prétendre, on peut même chiffrer le fait qu'Israël rapporte plus aux États-Unis qu'il ne coûte aux États-Unis. Et donc ça, pour Israël, c'est non seulement important parce que ça, si c'est compris non seulement par Trump, mais aussi par l'armée américaine, par le Congrès et par toutes les institutions américaines, ça va demeurer au-delà de Trump parce qu'évidemment, l'interrogation, c'est qu'est-ce qui se passera après Trump?
Merci beaucoup Daniel Habert d'avoir été avec nous cette semaine pour nos conversations et puis on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine!
À la semaine prochaine, au revoir.